France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. L'oreille de Proust, comment l'entendez-vous? C'est la question que Claude Maupomet avait posée à l'académicien et homme politique Maurice Schumann en 1988 sur les ondes de France Musique. Président de la Société des Amis de Marcel Proust et fin connaisseur de son œuvre, Maurice Schumann nous prend par la main et nous fait visiter la maison de Tante Léonie à Hélier-Combray, où le jeune Marcel Proust passait ses vacances. La musique n'est jamais loin dans l'univers proustien, c'est le voyage que nous propose Maurice Schumann dans le premier volet de cette archive.
Oui, bien ce que nous venons d'entendre, c'est toute l'importance des sons avant les sonorités dans le déroulement de la recherche. Nous venons d'entendre le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, qui s'oppose au grelot que déclenchent de l'autre côté les gens de la maison qui entrent sans sonner. Et qu'est-ce qui survient? Qu'est-ce qui est entré ici, comme nous venons d'y entrer nous-mêmes? Eh ben, c'est Swann. Ça ne peut être que Swann qui vient dîner en voisin. Et ces deux coups hésitants de la clochette, ils veulent dire que le narrateur enfant devra remonter dans sa chambre, c'est-à-dire monter l'escalier que nous allons monter nous-mêmes, sans avoir, comme les autres soirs, la consolation que sa mère viendra l'embrasser. Angoisse, désespoir, réflexion, recherche, tout part de là, dans ces quelques mètres carrés, entre lesquels nous sommes. Mais ce qu'il faut ajouter pour réparer un oubli fréquent, c'est que la fin du livre nous ramène ici, au lieu du départ. Après 3000 pages, au terme du temps retrouvé, qu'entendra le narrateur? Eh bien, il entendra le bruit des pas de ses parents qui reconduisent Swann. Ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petite sonnette qui annonce qu'enfin Swann est parti et que maman va monter. Et toute la trame qui court à travers l'immense roman relie deux sons créateurs, ces deux sons créateurs entre lesquels nous sommes réunis.
Maurice Schumann dans la maison de Tante Léonie à Hélier-Combray, et vous êtes président de la Société des Amis de Marcel Proust et de Combray, et vous allez nous faire visiter les principales pièces de la maison et le jardin.
Voulez-vous que nous commencions par la cuisine de Françoise?
Oui, allons-y. Je note au passage les jolis carreaux de la porte, les jolis carreaux de couleur qu'on ne fait plus maintenant, qui étaient si jolis.
Qui sont d'ailleurs évoqués dans l'œuvre. Alors voici la minuscule cuisine de Françoise. Alors quand on lit la recherche, on a le sentiment que c'est une immense cuisine où il se passe des quantités de choses. Et tout est là, on a l'impression qu'on va la voir surgir. Elle regarde à travers la fenêtre où il n'y a pas de carreau de couleur.
Le fourneau est très beau aussi. Mais ce qui m'a frappée, moi, c'est le nombre de domestiques qui semblent y avoir ici. Parce qu'on parle de femmes de chambre, on parle de maîtres d'hôtel.
Alors attention, tout est synthèse dans toute œuvre.
Voilà, oui.
Alors il y a ici la maison de Tante Léonie, mais quand la recherche décrit la maison de Tante Léonie et le jardin, il y a constamment des réminiscences de la maison d'Auteuil. Il faut tenir compte de ça. Selon l'essentiel, qui est le bruit initial de l'arrivée de Swann, puis le tintement qui annonce son départ, entre les deux l'escalier que la mère ne gravira pas, puis qu'elle gravira enfin. Tout cela, c'est ici.
Oui.
Et c'est l'âme de l'œuvre, c'est toute sa trame.
C'est ça. Et alors, il n'y a pas de vitres de couleur, mais il y a de très jolis carreaux de cuisine anciens. Nous allons dans la salle à manger en sortant de la cuisine, peut-être, non ?
Ça me paraît très logique.
Ça semble être resté exactement.
Alors ici, dans cette petite pièce, moi j'ai constamment l'impression de voir la tante Léonie qui surveille les allées et venues et la distinction fondamentale entre le côté de chez Swann et le côté de Guermantes qui part des conversations tendues à cette table. Mais l'essentiel, c'est tout de même l'escalier. L'escalier que maman ne gravira pas tout de suite. Et l'escalier que maman gravira enfin, 3000 pages de chef-d'œuvre entre les deux.
Mais cette salle à manger est restée telle qu'elle était, vraisemblablement.
Identique.
Il y a une très jolie glace, et une espèce d'alcôve, il y a des plats précieux, des assiettes au mur. Et on a l'impression absolument de faire un saut en arrière dans le temps. Alors, l'escalier, là.
Je pense à Jeanne Veil, Madame Adrien Proust, la mère de Marcel, celle dont il craignait le plus au monde d'être séparé et dont il guettait l'arrivée. C'est une femme très intelligente et très sensible, il faut le savoir, qui avait un grand esprit de sacrifice et une moralité extrêmement austère, bien qu'elle fût enjouée. Et elle était très dévouée à son mari et à ses enfants, elle était instruite, elle était cultivée, elle aimait la musique et les lettres, et c'est elle qui a aidé son fils à traduire Ruskin, donc à débuter dans les lettres. Et puis elle était très courageuse, Elle a toujours dissimulé à son fils Marcel ses peines et ses souffrances, de même que lui dissimulait à sa mère son grand secret, le secret de sa vie intime. Tout cela, on le sent dans cette maison d'où tout est parti, sans oublier pour autant que la représentation visuelle des personnages que nous avons ici ne change rien au fait que tout personnage romanesque est fictif et que la correspondance avec les personnages réels est suggérée. Sauf lorsque Proust avoue qu'elle est évidente, elle n'est évidente que pour la mère et pour la grand-mère qui sont tantôt dédoublées, tantôt fusionnées dans un seul et même personnage. Alors ici, nous sommes dans la chambre de Tante Léonie, dont vous voyez la photographie au mur. Et dans cette chambre, eh bien, nous avons la tasse dans laquelle fut trempée la Madeleine, et nous avons la Madeleine. N'abusons pas de cette image à laquelle on ramène tout, mais ici, par le retour aux origines et aux sources, elle redevient émouvante.
On a l'impression que rien n'a changé, la tapisserie des murs est celle-là probablement.
Ah, c'est certain, telle qu'elle fut écrite d'ailleurs.
Et les meubles, alors, et ça c'est merveilleux d'avoir tout pu conserver, non?
Alors où est le cabinet
qui sent l'iris?
Le cabinet qui sent l'iris, allons le chercher.
Mais là, il y a la chambre de Marcel.
Ah, voilà, alors en face la chambre, la très petite chambre de Marcel lui-même. Et quand on est ici, l'oreille de Proust devient en quelque sorte notre oreille. Nous avons l'impression de guetter l'arrivée de la mer et d'entendre les pas de cette femme qui monte et surtout de reconstituer cette angoisse et cette réflexion sur l'angoisse d'où tout est sorti.
Et nous avons la fameuse lanterne qu'on lui avait mise dans l'espoir de le calmer et qui n'aimait pas finalement.
Et Dieu sait si elle est laide.
Vous trouvez? Ah, moi, je la trouve jolie.
Non, je veux dire par là qu'elle est dans le goût de l'époque, elle n'est pas belle en soi. Elle prend une dimension. Tout prend une dimension ici. Il y a une odeur dans la maison de Tante Léonie, elle est pour moi moins importante que les sons. Les sons dont tout est parti et qui sont antérieurs aux sonorités. Alors bien sûr, ce qui importe dans l'œuvre, l'essentiel, c'est la montée de l'escalier. Mais la descente de l'escalier intéresse les visiteurs. Et il y a beaucoup de visiteurs pour le moment, notamment depuis qu'on parle énormément de Proust à propos de l'entrée de son œuvre dans le domaine public. Figurez-vous que l'escalier que nous descendons, le président de la République l'a descendu il y a quelques semaines à peine. Il a fait comme ça, dimanche après-midi, je crois, une visite incognito. Alors, vous voyez, ce pèlerinage a donc été fait par le chef de l'État, qui est un humaniste. La compréhension, l'amour de Proust, sont remontés jusqu'au sommet de l'État.
Alors, Maurice Schumann, ici, nous arrivons dans le jardin, le petit jardin, qui n'est évidemment pas tellement grand, mais...
Et qui est même très petit, c'est pas le jardin des Aubépines, mais c'est... probablement un des lieux les plus proustiens qu'on puisse imaginer, puisque c'est d'ici qu'on entend, par exemple, les cloches de l'église toute voisine.
Il semble qu'ici j'aperçois les précieux fauteuils en osier que Françoise rentrait rapidement quand il pleuvait.
On ne peut rien vous cacher, c'est exactement ça. Et vous voyez que nous ne sommes pas très éloignés de sa cuisine. Et au mur, alors, nous avons tous les personnages qui comptent. Madame Adrien Proust, dont j'ai déjà beaucoup parlé, le père, le frère, l'oncle, la tante, les amis.
Je pense que c'était un jardin d'hiver.
Toute une époque, exactement. Camille Barrère, le diplomate, Réjeanne, la célébratrice de l'époque. Et un certain nombre des personnages réels qui ont servi plus ou moins directement de modèle à l'œuvre. Madame Montvernon, la comtesse de Chevigné, un des modèles de la comtesse de Guermantes, Robert de Montesquieu.
J'aperçois Forêt.
Oui, et j'isole, moi, trois portraits ici, parce qu'à mon avis, il résume assez bien l'ensemble du milieu et de la vie de Proust. Vous avez le prince de Galles, qui est une sorte de symbole de tous les snobismes de l'époque, et aussi des conversations d'emploi, par exemple. Vous avez Paul Desjardins, fondateur de l'Union pour la vérité. Ça, c'est l'affaire Dreyfus, et on sait à quel point Marcel Proust fut Dreyfusard. Et puis, il y a l'essentiel, la musique, qui est ici représentée par Forêt.
Il y a aussi Gaston Calmette.
Il y a aussi Gaston Calmette, le directeur du Figaro, assassiné par Mme Caillou en 1914, et qui accueillait dans le Figaro les chroniques de Proust, dont aucune n'est négligeable, et qui en particulier, je pense à l'une d'elles, très souvent traite du thème de la mort. Le fameux « Mort à jamais, qui peut le dire ?» de la mort de Bergotte apparaît déjà dans un article du Figaro que je retrouvais récemment à propos de la mort d'Anne de Proust. À propos de la mort, je suis en train de chercher le nom du prince de Polignac.
Alors, nous sommes dans le jardin de Tante Léonie, à Combray, c'est-à-dire à Illiers. Et Maurice Schumann, je vous pose la question traditionnelle. L'oreille de Proust, comment l'entendez-vous ?
Je l'entends à travers le chalumeau du pâtre, au dernier acte de Tristan. Et cela, voyez-vous, pour deux raisons. D'abord parce que Wagner est, avant Beethoven, le musicien le plus souvent cité dans la recherche. Il est cité 100 fois sous son nom, à travers une de ses œuvres. Et dès le début d'Un amour de Swann, vous vous le rappelez, éclate la transcription pour piano de la chevauchée des Valkyries ou du prélude de Tristan. Et puis ensuite, je vais peut-être beaucoup vous étonner, à cause du téléphone, de l'oreille de Proust collée au téléphone. Rappelez-vous ce passage, qui je crois est dans Sodome et Gomorre. J'étais torturé par l'incessante reprise du désir, toujours plus anxieux et jamais accompli d'un bruit d'appel. Nous sommes au début du téléphone. Et ce que chacun de nous a connu ensuite, c'est-à-dire l'attente anxieuse du coup de téléphone de l'être aimé, Proust est le premier à la décrire. Et il ajoute, j'entendais tout à coup, mécanique et sublime, comme dans Tristan, le chalumeau du pâtre, le bruit de toupie du téléphone, je m'élançais, c'était Albertine. c'est unique ce solo de cor anglais. Il n'a pas besoin d'accompagnement, il est construit comme une mélodie grégorienne. C'est un tour de force. Alain Louvier, le directeur du conservatoire, me le faisait remarquer il y a quelques jours, que personne n'a jamais essayé de recommencer. Et d'ailleurs, la mélodie reviendra plus loin, mais cette fois intégrée à une harmonie. Claude, je vous parlais du téléphone tout à l'heure. L'adolescence du téléphone, si je puis dire, est contemporaine de celle de Proust. Et elle frappe son oreille d'une manière tout à fait inattendue. Et je ne sais pas si vous avez lu au début de cette année, dans un article de France Télécom, sous la signature de monsieur Patrice Carré, un article où on explique comment Proust s'empare du téléphone, de ce signe de modernité, pour en faire un élément de fiction. Nous sommes à une époque où on ne compose pas son numéro. Pour entrer en communication, il faut passer par les demoiselles du téléphone. Ces demoiselles de l'invisible, comme Proust les appelle. Et elles le fascinent. Elles qui sans cesse, dit-il, vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons. Et il y a une des pages du côté de Guermantes que je place vraiment au sommet de l'œuvre et qui est justement la conversation téléphonique de Proust avec sa grand-mère. Quand il parle de cette présence réelle, que cette voix si proche, dans la séparation effective, de cette voix si proche, qui est aussi comme l'anticipation d'une séparation éternelle. Bien souvent, dit-il, écoutant de la sorte, sans voix, celle qui me parlait de si loin, j'ai connu l'anxiété. Il ajoute, l'anxiété qui allait m'étreindre un jour, quand une voix reviendrait seule, et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir. Et à ce moment-là, il vous en souvient, la communication est coupée, et il ajoute à peu près, il me semblait que c'était déjà une ombre chérie, que je venais de laisser se perdre parmi les ombres, seul devant l'appareil, je continuais à répéter en vain, grand-mère, grand-mère, comme Orphée resté seul, répète le nom de la morte.
Où suis-je ? Je ne puis résister à ces pleurs. Non, le ciel ne veut pas un plus grand sacrifice pour ma chère Eurydice. Qu'ai-je fait et dans quel précipice m'a plongé mon funeste amour, chère épouse, Eurydice, Eurydice, chère épouse. Elle ne m'entend plus, je la perds à jamais. C'est moi qui lui ravis le jour, loi fatale, cruel remords. Elle est sans égale. Dans ce moment funeste, le désespoir, la mort est tout ce qui me reste. «
Merci d'avoir choisi une voix d'homme. Je trouve que Léopold Simoneau chante admirablement. Et j'aime mieux le rôle d'Orphée interprété par une voix d'homme. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y a dans l'œuvre de Proust d'autres rencontres d'Orphée et de Swann qui lui aussi descend aux enfers à la recherche de la femme qu'il aime. Le nom de Gluck d'ailleurs ne se trouve qu'une fois ou deux dans la recherche. Il arrive même à Proust de se tromper. Il attribue à Rameau une citation de l'Armide de Gluck. Alors que, par exemple, Chopin y apparaît 16 fois, et Beethoven, si je ne me trompe, une bonne trentaine de fois.
Maurice Schumann, moi, ce que je voudrais savoir, c'est de quand date votre première rencontre avec l'œuvre de Proust, et que vous connaissez vraiment très très bien.
C'est très simple, j'ai 15 ans, et mon professeur de seconde nous explique que dans l'œuvre de Proust, il y a un passage qui s'appelle « Un amour de Swann », que l'on peut détacher, dont on peut faire une œuvre qui est une fin en soi. Et je l'entends encore établissant une comparaison avec les mémoires d'un homme de qualité, de l'abbé Prévost. On ne lit plus les mémoires d'un homme de qualité, dit-il, on lira toujours Manon Lescaut. Alors je me suis jeté sur Un amour de Swann, mais alors que quand j'ai lu Manon Lescaut, je n'ai pas eu envie de lire le reste des mémoires d'un homme de qualité, la lecture d'Un amour de Swann m'a transformé, comme on disait à l'époque, en un véritable proustiféré. Je n'ai jamais cessé de l'être.
Oui, mais alors vous l'avez relu plusieurs fois.
Constamment. Je ne dis pas que je relis l'œuvre d'un bout à l'autre constamment, mais par exemple, quand récemment Nathalie Mauriac nous a restitué, dans son état définitif, choisi par Proust, Albertine, je l'ai lu deux fois, d'un bout à l'autre.
Et comment est-ce que vous êtes devenu président de cette association ?
Ah, alors là, je crois...
En tant que Proustien,
Je crois que c'est parce que j'étais l'ami de mes deux prédécesseurs, Gaston Palevski et Jacques de la Crotelle. D'ailleurs, beaucoup d'autres étaient beaucoup plus dignes que moi.
Jacques de La Cretelle, qui a connu Proust.
Qui a connu Proust, bien entendu, que nous allons retrouver d'ailleurs à diverses reprises au long de cette enquête à travers Proust et la musique.
Et vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allé dans la maison de Tante Léonie ?
Oui, et ça c'est tout à fait inattendu alors. La première fois que je suis venu ici où nous sommes, j'ai été accueilli, savez-vous par qui ? Non pas par Chopin ni par Beethoven, mais par Olivier Métra, le chef d'orchestre des bals de l'Opéra Comique, puis de l'Opéra, qui est mort quand Proust avait 18 ans. Métra, qui est l'auteur du Quatrième des Lanciers et de la Valse des Roses. Et ici, dans le jardin de la maison de Tante Léonie, à l'endroit précis où nous sommes, le violon de Claude-Henri Joubert, qui est aujourd'hui le directeur général de l'Institut de Pédagogie Musicale de la Villette et qui à l'époque était directeur du Conservatoire d'Orléans, ce violon de l'auteur d'un ouvrage d'ailleurs exemplaire sur la musique dans la recherche, était en train d'exécuter devant un appareil d'enregistrement la Valse des Roses.
Avec moi pour fêter le printemps, nous cueillerons des lilas et des roses. Ne vois-tu pas que ces fleurs de vie composent brillent sur ton front? Fidèle, qui chante toujours le retour des beaux jours. Il dit que pour plaire, on danse sur la terre, les fleurs pour charmer et le cœur pour aimer. Viens avec moi pour fêter le printemps. Nous cueillerons des lilas et tu vois que ces fleurs de vie composent de briller sur ton front.
Alors, je pourrais vous demander pourquoi la Valse des Roses, Maurice Schumann, mais quand même, je sais, moi.
Oui, bien sûr, vous me le demandez parce que vous le savez, et d'ailleurs, tous les lecteurs de Proust connaissent la réponse. Quand Swann arrive chez Odette, Le premier des morceaux qu'il trouve ouvert sur son piano est la valse des roses. Et la valse des roses qu'on devait, selon la volonté écrite d'Odette, il vous en souvient, faire exécuter à son enterrement. Alors, vous allez me dire, bien sûr, je ne suis même pas sûr que vous me le direz, mais enfin, Odette n'a pas très bon goût. C'est vrai, Swann n'ignore pas ce qu'il entre en elle de vulgarité. Mais attention.
Je crois que ça lui plaît, finalement.
Attention. Proust, qui est le censeur le plus sévère du snobisme musical des Salonards, et surtout des Salonardes, pensez à Madame Verdurin, le front bombé par tant de quatuors, qui s'effraye du mal que cette musique va faire à ses nerfs, qu'il écoute le visage dans ses mains pour montrer qu'elle les considère comme une prière et pour ne pas laisser voir qu'elle dormait, ajoute Proust. Eh bien, ce Proust refuse de mépriser la musique dite vulgaire. Et le narrateur n'a aucun scrupule à reconnaître dans les pages inoubliables d'Albertine disparue sur Venise et qu'il se laisse captiver par une rengaine. Et quelle rengaine ? Sa mère va le quitter. Et sur une barque arrêtée en face de la gare, un musicien chante « Sol et Mio ». Cette voix unique de Pavarotti que tout Paris acclamait, j'en étais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, en lui demandant, il l'a fait, de bisser le grand air de l'élixir d'amour de Donizetti. Cette voix a l'air d'avoir inspiré à Proust ce qu'il écrit à propos de Sol et Mio, rappelez-vous. Chaque note que lançait le chanteur, avec une force et une ostentation presque musculaire, écrit Proust, c'est Pavarotti, venait me frapper en plein cœur. Quand la phrase était consommée en bas et que le morceau semblait finir, le chanteur n'en savait pas assez et reprenait en haut, comme s'il avait besoin de proclamer une fois de plus « ma solitude et mon désespoir ». Avouons que la musique de Proust est peut-être plus belle que celle de Salemio qui l'inspire, mais elle n'est pas plus belle que la voix de Pavarotti.
Et vous, Maurice Schumann, vous passez facilement d'une musique comme au Salemio à la musique d'Honegger ou aux autres musiques que vous aimez?
Écoutez, je fais exactement comme Swann. Il arrive chez Odette, il trouve la valse des roses ouverte sur son piano. Seulement, ce n'est pas la valse qu'il lui demande de jouer, ni non plus Salemio qu'il lui demande de chanter. Ce qu'il lui demande de jouer, c'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil.
Oui, mais je crois que ce n'était pas une très bonne pianiste, Odette.
Elle joue mal, oui. Et à voir son visage pendant qu'il écoute la petite phrase, vous savez, l'air national de leur amour, on aurait dit qu'il entre en contact, si je me rappelle, bien, avec un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, que nous n'atteignons que par un seul sens. Swann est transformé à ce moment-là en une créature étrangère à l'humanité, c'est Proust qui le dit, dépourvue de facultés logiques, une créature chimérique ne percevant le monde que par l'ouïe. Alors, il faut bien croire que c'est de la très grande musique, puisque Swann, qui était en état de sécheresse morale au moment où il arrive chez Odette, se sent nouveau en l'entendant, le désir et presque la force de consacrer sa vie à ces réalités invisibles dont il parle, ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire.
Oui, mais il commence à être très amoureux là tout de même.
Il l'est follement, puisque la petite phrase deviendra l'air national de leur amour, mais cette musique qui transfigure, dès que nous en parlons, nous nous demandons naturellement qui elle est.
Oui, alors, qui est Vinteuil d'après
voilà,
vous
ça. Ça, c'est la vieille question, à quelle sonate, à quelle petite phrase pense-t-il? Il faut bien que nous y venions. Écoutez, ramener la relation de Proust avec la musique à cette éternelle énigme, c'est un jeu d'esprit. Tout juste bon pour Mme Verdurin ou pour Mme Cottard, mais s'interroger sur votre question, alors c'est, sans vouloir vous flatter, comme dit Proust lui-même dans Un amour de Swann, c'est un plaisir de l'intelligence. Eh bien, puisque votre émission s'appelle « Comment l'entendez-vous ?», je vais essayer, Claude, de vous faire partager ma conviction toute personnelle. J'ai acquis la certitude intime qu'il y a en fait trois questions et qu'elles appellent trois réponses différentes. Première question, qui est Vinteuil? Deuxième, qui est l'auteur de la sonate et du Septuor? Il ne faut pas oublier le Septuor. Et troisième question, qui a inspiré la fameuse petite phrase de la sonate? D'ailleurs, n'oubliez pas que Proust a pris soin d'écrire « Il faut bien des jeunes filles, bien des églises, bien des sonates pour faire une seule sonate, une seule église et une seule jeune fille. » Alors d'abord, qui est Vinteuil? Là, je n'ai aucune hésitation. Le seul compositeur contemporain auquel il ressemble, c'est César Franck, qui est mort en 90, quand Proust va avoir 20 ans. Proust aime Franck. Vous vous rappelez dans Sodome et Gomorre, Charlus, qui dit-il est un pianiste délicieux, se met au piano, il plaque le dernier accord du morceau schumannesque de la sonate de Fauré, et à ce moment-là, le narrateur se permet de réclamer du Franck. Ce qui fait d'ailleurs tellement souffrir Madame de Cambremer qu'il n'insiste pas. Et plus tard, dans Albertine, que je viens de relire deux fois, je vous l'ai dit, le chant innocent et mélodieux de Franck est comparé à celui de Mendelssohn. Mais la raison profonde de cette ressemblance, à mon ami, elle est ailleurs. Il y a dans la recherche un seul personnage qui ressemble à un saint. C'est pas du tout Elstir, le peintre, qui a un côté trivial, c'est pas l'écrivain Bergotte, dont le modèle est, dit-on, la tonne France, qui devient inhumain à force d'être l'esclave de sa gloire, c'est Vinteuil. C'est Vinteuil dont la pureté contraste avec l'impureté de sa fille, d'ailleurs il en souffre, et avec l'impureté de presque tous les personnages de la recherche. Vinteuil qui ne distingue pas la morale bafouée de la musique profanée. Et d'ailleurs, dans le texte primitif qui précède la recherche, Jean Santeuil, il y a un musicien-compositeur, qui s'appelle Berger, si je me rappelle bien, et un savant, qui s'appelle Vincton. Et dans la recherche, le compositeur a en quelque sorte absorbé le savant. Mais l'origine de Vinteuil laisse une trace dont la souvenance ne sera pas perdue. Quand Swann est devenu presque indifférent à Odette, il entend de nouveau la sonate chez Madame de Saint-Euverte Et alors, il n'est plus question de l'air national d'un amour périssable. Oh, audace, aussi géniale peut-être que celle d'un Lavoisier ou d'un Ampère. Oui, il se rappelle. Il se rappelle l'origine scientifique du personnage. Oh, audace, aussi géniale peut-être que celle d'un Lavoisier ou d'un Ampère, que celle d'un Vinteuil, découvrant les lois secrètes d'une force inconnue, menant vers le seul but possible, l'attelage invisible auquel il se fie et qu'il n'apercevra jamais. Alors, ça n'est, ce n'est même plus la religion de la musique. C'est la musique-religion. C'est la Schola Cantorum, créée par Vincent d'Indy, élève de Franck, en 1897. C'est pour moi, le premier mouvement de la sonate pour piano et violon de César Franck.
Thank you.
Le premier mouvement de la sonate pour piano et violon de César Franck, Jacques Thibault était au violon, accompagné par Alfred Cortot au piano, dans un enregistrement de 1929. Ainsi s'achève la première partie de l'émission de Claude Maupomé consacrée à Marcel Proust et la musique, en compagnie de l'écrivain et homme politique Maurice Schumann, enregistrée en 1988. Cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr sur la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Alexandre Billard à la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'UNA.
À réécouter sur francemusique.fr.